Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Demandez toujours le don de conseil, c'est l'invitation lancée ce mercredi par le pape lors de l'audience générale. Le Saint-Père a encouragé les fidèles à remettre leur vie entre les mains de Dieu. Il poursuivait sa catéchèse sur les dons de l'Esprit-Saint. Le catholicos de tous les Arméniens, Karikin II, sera reçu ce jeudi par le pape. Éclairage sur le sens de cette visite au Vatican dans quelques instants. Vous entendrez ensuite le vicaire patriarcal général des Maronites à propos de la polémique liée à la visite prévue du cardinal Rai en Terre Sainte. Bienvenue dans ce magazine. Le pape a poursuivi ce mercredi, lors de l'audience générale place Saint-Pierre, son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit-Saint. Après la sagesse et l'intelligence, le Saint-Père a proposé une réflexion sur le don de conseil, un don important, un trésor pour toute la communauté chrétienne.
Ora attraverso il dono del consiglio è Dio stesso, con il suo spirito a illuminare il nostro cuore.
Le Saint-Père souligne que l'Esprit-Saint, à partir du moment où nous l'accueillons dans notre cœur, nous rend sensibles à sa voix. Il guide nos pensées, nos intentions, selon le cœur de Dieu. Il nous rend ainsi capables de faire des choix concrets en communion avec Dieu. L'Esprit, ajoute le pape, nous fait grandir intérieurement, positivement. Il nous fait grandir dans la communauté et nous aide à ne pas sombrer dans l'égoïsme.
La condition essentielle pour conservare questo dono è la preghiera.
La condition essentielle pour conserver ce don est la prière, précise le pape François. Par la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans l'écoute de sa parole, nous apprenons à lui demander quelle est sa volonté. Nous apprenons petit à petit à mettre de côté notre logique personnelle, guidée le plus souvent par nos préjugés, notre ambition et notre manque d'ouverture. Demandez toujours le don du conseil. Il constitue un trésor pour toute la communauté chrétienne. Une invitation du pape à remettre avec confiance toute notre vie entre les mains de Dieu, en particulier les choix que nous avons à faire dans les moments compliqués ou difficiles. Aucune âme qui se laisse guider par Dieu n'est déçue ou perd son chemin, a relevé le Saint-Père, s'adressant en particulier aux fidèles de langue arabe. Ne suivez pas les faux conseillers aux apparences attrayantes, mais qui nous mènent uniquement d'un esclavage à l'autre. Laissez-vous guider par l'Esprit du Seigneur. Au terme de l'audience générale, en saluant divers groupes présents place Saint-Pierre, le pape s'est adressé aux familles des jeunes de la communauté de San Patrignano qui soignent de jeunes toxicomanes. Il a rappelé avec force son opposition à l'usage de drogue. Il faut le dire à tous, simplement non à toutes les drogues. L'usage de la drogue, une question qui préoccupe également les évêques argentins qui ont réclamé un renforcement des mesures contre le trafic de drogue dans leur pays. L'augmentation de l'utilisation de drogue chez les jeunes est l'un des thèmes abordés par les évêques argentins lors de leur assemblée plénière qui se tient jusqu'au 10 mai prochain près de la capitale Buenos Aires. Le vice-président de la conférence épiscopale argentine, Monseigneur Virginio Domingo Bressanelli, demande depuis longtemps l'intervention ferme de l'État pour combattre la diffusion de la drogue chez les très jeunes. Le problème de la drogue touche à présent les écoles élémentaires, affirme-t-il. Les chiffres indiqueraient en effet une baisse de l'âge de la première consommation de 14 à 8 ans. Jusqu'à présent relativement épargnée par ce fléau continental, l'Argentine fait désormais l'expérience du narcotrafic en passant de pays de transit vers l'Europe ou l'Afrique à zone d'élaboration de stupéfiants ou de repli et d'investissement pour narcotrafiquants. « Le catholicos de tous les Arméniens, Karikin II, est actuellement en visite au Vatican. Accompagné d'une délégation d'une dizaine de personnes, il rencontrera le pape François ce jeudi matin après une visite au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le patriarche a par ailleurs été reçu ce mercredi après-midi par le pape émérite Benoît XVI, qu'il connaît bien pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises durant son pontificat. Responsable du dialogue avec les églises orthodoxes orientales au sein du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le père Gabriel Quick nous présente cette visite du patriarche apostolique arménien.
C'est une visite fraternelle, une visite d'amitié, parce que nous avons de très bonnes relations entre l'Église catholique et l'Église arménienne apostolique. Le patriarche est venu pour l'inauguration du pape François. Après la messe, il y avait une brève rencontre avec le pape, mais il a voulu venir spécialement pour rencontrer le Saint-Père et pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié.
C'est régulier que le patriarche apostolique arménien rencontre le pape au-delà de François ?
Oui, il y a une régularité. La dernière visite plus longue était avec le pape Benoît à 2008. C'était une visite officielle avec une grande délégation. Puis il est venu il y a 2 ans visiter le pape Benoît, mais c'était une visite privée. Et 2 semaines plus tard, moi j'ai accompagné le cardinal Koch pour une visite œcuménique en Arménie. Ce que veut dire que nous avons de très bonnes relations. Ils sont aussi présents dans le dialogue œcuménique de la Commission internationale pour la relation entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales. Ils ont donc 2 représentants dans ce dialogue.
Est-ce que l'Arménie a une place particulière parmi les Églises orientales ? Est-ce que c'est un signe encore d'un renforcement des relations entre l'Arménie et le Saint-Siège ?
Notre conseil a beaucoup de défis. Nous faisons nos mieux pour servir l'unité des chrétiens. C'est parce que notre mission est de construire des ponts entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes. Et c'est sûr que l'Arménie a une place particulière dans notre mission parce que c'est un peuple qui a souffert beaucoup. Beaucoup d'Églises ont souffert beaucoup. On peut parler d'un œcuménisme du martyr. Dans ce temps-là, nous sommes solidaires avec les uns les autres à renforcer la mission de continuer à rendre témoignage de l'Évangile et du Christ. Le pape Benoît XVI et aussi le pape François nous invitent à renforcer ce lien de solidarité et surtout d'être unis à travers la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force de retrouver un nouvel élan, de rendre témoignage de l'Évangile.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. C'est un déplacement hautement symbolique. Le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, débutera samedi prochain une visite en Allemagne à l'occasion du 50e anniversaire de l'installation d'un métropolite grec orthodoxe dans le pays. Ce voyage précédera de quelques jours la rencontre prévue le 25 mai à Jérusalem entre le pape François et le patriarche Bartholomée qui commémoreront là aussi un cinquantenaire, celui de la rencontre entre leurs prédécesseurs respectifs Paul VI et Athénagoras. À 3 semaines du voyage du pape en Terre Sainte, le cardinal Béchara Boutrosraï, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, a réagi à la polémique suscitée au Liban par sa participation à ce pèlerinage. Le pape se rend en Terre Sainte et je suis celui qui doit l'accueillir, cela fait partie de mes prérogatives, a-t-il déclaré. Depuis qu'il a annoncé son intention d'accompagner le pape François lors de sa visite en Terre Sainte et donc aussi en Israël, le cardinal Raï subit les critiques d'une frange de la population libanaise. Il ne rencontrera aucun responsable politique israélien, mais 2 journaux proches du Hezbollah l'accusent de vouloir normaliser les relations avec Israël. Comment expliquer ces accusations ? Marie Duhamel a posé la question à Mgr Boulos Saïa, le vicaire patriarcal général des Maronites.
Le Saint-Père vient chez nous et il est tout à fait normal que nous allions le recevoir dans le territoire patriarcal. Nous avons un archidiocèse là-bas dans le territoire israélien et Jérusalem est une église patriarcale. Nous avons un vicaire patriarcal à Jérusalem et pas un évêque. Donc il est tout à fait normal que le patriarche soit là-bas pour accueillir le Saint-Père. Et nous avons une présence maronite en Terre Sainte depuis le début de l'histoire de notre Église maronite. Je ne vois pas comment on s'étonne que le patriarche soit là pour accueillir sa sainteté, quand même.
Est-ce que vous comprenez néanmoins que le patriarche soit accusé de vouloir normaliser les relations avec Israël? Évidemment, c'est ce que mettaient en avant des journaux proches du Hezbollah.
Je ne comprends pas du tout cette logique, parce que tout le monde sait ce que le patriarche pense de la situation sur notre relation avec Israël. Tout le monde sait aussi ce que le patriarche et le patriarcat font pour la cause palestinienne. Je crois qu'il y a quand même d'autres raisons, probablement, qu'on ne dit pas. Nous comprenons ce qu'ils disent, mais j'ai l'impression, malheureusement, qu'on ne voit pas la chose dans son contexte. Le patriarche n'a pas choisi d'aller en Israël sans qu'il y ait une occasion très spéciale.
Vous avez parlé de raisons sous-jacentes à ces accusations. C'est quoi, selon vous?
Moi, je ne veux pas juger les intentions. Mais je vois tout ce bruit qu'on fait autour de la visite. De notre point de vue, c'est tellement exagéré qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai été archevêque en Terre Sainte pendant 16 ans, tout le monde le sait. Je passais par voie de terre du Liban à travers Nakoura en Israël. Le gouvernement libanais était toujours au courant. Maintenant, si le patriarche qui a l'obligation de visiter ces diocèses de par le monde une fois tous les 5 ans va demander des permissions pour faire son travail, je m'excuse, ça tourne pas bien. Hein.
Mais alors comment est-ce que vous interprétez cette levée de bouclier?
Il faut poser la question à ceux qui ont levé le bouclier. Au contraire, nous essayons de calmer les esprits, d'expliquer à tout le monde, à tort et à travers, dans toutes les langues, que c'est une visite pastorale. Nous ne mettons pas une intention politique dedans.
Puisque c'est une visite pastorale, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux maronites qui sont aujourd'hui en Terre Sainte?
D'abord, dire à nos chrétiens là-bas que nous sommes avec eux, à leur côté, dans toutes les circonstances difficiles qu'ils sont en train de traverser. Malheureusement, Israël, maintenant, de plus en plus, veut que Israël soit un pays pour les Juifs. Ça envoie un message pas très gai, n'est-ce pas, à tous ceux qui ne sont pas Juifs. Avec ça ne veut pas dire que les chrétiens sont persécutés ou bien les chrétiens vivent là-bas d'une manière tout à fait libre et les chrétiens sont des Arabes et considérés comme des Arabes, avec tout ce que ça veut dire que d'être arabe dans ce pays-là. Alors oui, nous allons chez les chrétiens et chez les musulmans qui sont là. Il y a 3000 Libanais qui sont allés là-bas en l'an 2000, malgré eux évidemment, parce qu'ils étaient au sud du Liban. Nous allons aussi les rencontrer pour les encourager aussi à tenir bon et éventuellement, nous espérons qu'ils pourront regagner le Liban sans trop de problèmes.
Monseigneur Boulosseïa, qui accompagnera le cardinal Rai lors de son déplacement en Terre Sainte. Un dialogue constructif au cours duquel des précisions importantes ont pu être apportées. C'est en ces termes que l'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève a évoqué son intervention mardi devant le comité de 10 experts indépendants chargés de veiller à la bonne application de la Convention onusienne contre la torture dont le Saint-Siège est signataire depuis 2002. Monseigneur Silvano Tomasi s'était déjà exprimé à la tribune de l'ONU lundi, soulignant l'engagement du Vatican dans la lutte contre la torture. Au lendemain de son discours, il a répondu à différentes questions et rappelé certains points importants.
La mentalité a évolué et dans l'Église, dans les dernières années, on a pris des mesures et on a donné des directives aux églises locales et changé des lois dans l'État du Vatican de manière que on est arrivé à vraiment changer la situation. Parce que maintenant, il y a une diminution des cas de pédophilie dans les clergés, que je crois est le résultat des mesures qui ont été prises. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu la chance de souligner plusieurs fois. Et la deuxième priorité qu'on a eue est d'essayer d'expliquer, pas seulement aux experts de la Convention contre la torture, mais aux médias, qu'il y a une distinction importante entre la responsabilité juridique, légale, du Saint-Siège sur le territoire de la Cité du Vatican et que la responsabilité pastorale que le Saint-Siège a envers l'Église universelle demande un autre style de présence et d'influence. On n'est pas fossilisé dans le passé, que la culture a évolué et que aujourd'hui les bonnes pratiques de l'Église au niveau du Saint-Siège et au niveau des églises locales peuvent être utilisées par d'autres institutions et par les États pour combattre la pédophilie et pour prévenir ces crimes.
Monseigneur Silvano Tomasi, interrogé par Antonino Gallofaro. Améliorer la condition des Roms en Europe, c'est autour de cette thématique qu'étaient réunis à Athènes les participants à la rencontre organisée ces trois derniers jours par la Conférence des Églises européennes et le Conseil des Conférences épiscopales d'Europe. Une rencontre qui a reçu l'appui du gouvernement grec actuellement à la tête de l'Union européenne. Les participants ont écouté différents témoignages et échangé leurs expériences concernant l'activité pastorale des églises pour les Roms, des églises préoccupées par la détérioration de leurs conditions de vie. Nous en parlons avec Mgr Duarte d'Acuna, le secrétaire général du Conseil des Conférences épiscopales d'Europe.
Dans l'Europe de l'Est, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie, ils sont des minorités très nombreuses qui sont dans une situation stable, qui ne sont plus nomades, mais qui sont aussi dans une situation économique très, très, très fragile, sont très pauvres. Avant, dans le temps du communisme, il y avait encore une espèce d'obligation de travailler. L'État, proprement dit, trouvait du travail pour toutes ces personnes. Maintenant, ils n'ont pas de travail. Ils sont toujours plus marginalisés. Mais il y a une autre situation, que sont les Roms en Espagne, ou en Portugal, ou en Italie, en Angleterre, ou en Irlande. Alors, ce sont des populations souvent marginalisées au niveau de la société. Ce qu'on a vu, c'était le problème d'une certaine phobie. Ça veut dire que on a besoin de surpasser les préjudices, bien sûr, de la part de la société en général, et d'essayer des moyens d'intégration plus stables et plus tranquilles. C'est une chose de dialogue. On a besoin les uns et les autres. C'est nécessaire en toute l'Europe. Les Roms sont la minorité plus nombreuse, presque 15 millions. Comment faire pour les aider en tant que personnes et en tant que pauvres, mais aussi pour dans leur culture, leur sagesse, une culture forte et aussi une valeur pour le reste de l'Europe.
Quelles sont donc les actions qui sont déjà en place pour les aider?
Il y a des actions qui sont de charité. Il y a les actions éducatives. Par exemple, en Hongrie, les centres pour aider l'intégration des Roms, que ça veut dire qu'il y a des assistances sociales. Il y a des personnes qui aident le développement de la population, l'intégration. Et puis, il y a la partie d'évangélisation que les églises font, les communautés, les pèlerinages.
Comment pourrait être renforcée la coopération entre les églises et les pays de l'Union européenne?
Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de fonds même dans l'Union européenne, mais ils sont donnés pour des projets que de 2-3 ans. Après ces années, ils laissent les choses comme ils ont trouvé, au pire. Par contre, les églises restent là. Et alors, ce qu'on voit le plus important, c'est que l'Union européenne aussi, et ceux qui ont les fonds, se rendent compte de l'importance du fait que les églises sont enracinées dans les régions, dans les locales, pour ne pas donner des fonds à des personnes qui peuvent être pas très transparentes dans l'utilisation de ces fonds et qui font des projets de passage. Je crois que l'Union européenne, c'est vraiment de compter avec les églises.
Et justement, est-ce que c'était pour vous important d'organiser cette conférence à quelques semaines des élections européennes?
Cette conférence, on le fait avec le soutien du gouvernement grec en ce moment qu'a la présidence de l'Union européenne. Alors, on veut aussi utiliser cette opportunité pour rendre plus conscients les gouvernements et les politiciens qui vont s'engager dans les élections européennes du fait qu'ils ont besoin d'être attentifs à la situation. Les Roms sont vraiment une urgence que l'Europe doit être consciente et intégrée et sauvée dans ce certain sens.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.